Bonjour à tous. Non. Icos, prise 1. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les humains et leurs machines à son. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au Pink Floyd et à Icos. Dans cet épisode, nous nous intéresserons donc à Pink Floyd et au rock progressif. J'avais, en tout début d'année, en direct, fait une petite mise en bouche à cet épisode que vous allez enfin pouvoir écouter. Bien, pour nous intéresser au rock progressif, il nous faut comprendre ce qu'est le rock progressif tout d'abord. Le rock progressif est un mouvement qui date des années 60, plus précisément de la fin des années 60, puisqu'on marque le début du rock progressif en 1969. Nous y revenons. Le rock progressif est une évolution du rock psychédélique, un rock qui est issu de la mouvance New Age, de l'apparition des différents psychotropes, qui va particulièrement marquer le milieu musical. Et dans cette période-là, certains groupes vont vouloir pousser un peu plus loin l'expérimentation. C'est notamment le cas du groupe King Crimson, qui en 1969 va publier le premier album qui est considéré aujourd'hui comme le rock progressif, du rock progressif, In the Court of the Crimson King. Cet album s'ouvre par la très célèbre 21st Century Schizon Man. Le groupe mélange ici des influences à la fois jazz, classique et, on peut le dire, King Crimson annonce ici le proto-metal aussi. On est donc sur une mouvance qui, comme vous pouvez l'entendre, s'attache autant à des choses du passé qu'à des choses du présent. La caractéristique du rock progressif, ça va être la recherche. Une recherche tout à la fois formelle, puisque au lieu de se limiter à la simple structure couplet-refrain, sur laquelle nous reviendrons quand nous parlerons de Icos, les groupes vont commencer à expérimenter, à chercher plutôt une forme narrative plus qu'une forme réellement structurelle comme la chanson couplet-refrain, ce qui va permettre de sortir des cadres précédemment établis dans la musique populaire. De plus, le rock progressif va se caractériser par une recherche. Ça va être une recherche sur les sons, en fait, avec l'apparition d'instruments tout à fait insolites, puisque dans l'album The Court of the Crimson King, on va entendre un saxophone, une flûte traversière, un petit orgue, tout ce genre d'instruments un peu bizarres qui ne se retrouvent habituellement pas dans le rock, vont pouvoir se retrouver dans le rock progressif, puisqu'ils vont ajouter à la palette sonore. De plus, l'arrivée des synthétiseurs, avec d'abord les Moog, puis les synthétiseurs analogiques de type Juno 60, etc., qui arriveront à la fin des années 70, vont apporter une nouvelle couleur, de nouveaux sons qui vont être abondamment utilisés par les musiciens de rock progressif. Il y a aussi l'utilisation, notamment dans The Court of the Crimson King, sur lequel nous reviendrons, du mélotron, qui ne sera pas intéressante ici. Ce qui va caractériser le son de cette époque, c'est vraiment l'utilisation de ces instruments-là, très variés, très divers, et la recherche expérimentale avec des sons. Au-delà de ça, le rock progressif va aussi se caractériser par un certain attachement au jazz. Contrairement aux accords classiques qu'on pourrait retrouver dans le rock, c'est-à-dire des accords majeurs, des accords mineurs, de temps en temps un accord de septième, qui va pouvoir se résoudre sur le premier degré. On va commencer à avoir l'apparition d'accords beaucoup plus étendus. D'accords très biscornus, on pourrait citer le... Ce genre d'accords-là qui vont avoir une couleur très... très particulière. Ici, je vous ai joué des accords qui sortent de la chanson Court of the Crimson King. Et cette utilisation d'accords particuliers, l'utilisation des modes aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de la gamme majeure ou de la gamme mineure. On va aller chercher des modes comme le dorien, par exemple, qui est un mode qui est très cher au groupe Pink Floyd, bon, sur lequel nous reviendrons plus tard. Eh bien, cette utilisation recherchée et poussée de l'harmonie, de la mélodie aussi, puisque la mélodie va avoir tendance à être particulièrement importante pour les musiciens du rock progressif, ça va caractériser cette musique, disons, qui est en recherche, une musique... Le terme progressif dans rock progressif désigne vraiment cet objectif des musiciens. C'est plus un état d'esprit que réellement un courant parfaitement défini. L'objectif des musiciens de rock progressif, c'est de faire progresser la musique, d'aller vers l'avant, de prendre ce qu'il y a du passé et de le mélanger pour donner quelque chose de nouveau. C'est-à-dire pour ça que, par exemple, King Crimson est très rattaché à la musique du jazz. Mais le rock progressif peut être un genre qui, de ce fait, semble assez hermétique. En effet, si vous écoutez les albums plutôt tardifs de King Crimson, ça commence à être vraiment très difficile à s'y raccrocher si on n'a pas l'envie et l'habitude de ce genre de morceaux-là. Ce qui fait que ce n'est vraiment pas une bonne porte d'entrée dans ce genre-là, j'aurais envie de dire. Et c'est ça qui va vraiment caractériser cette partie, ce début du rock progressif, c'est le fait que c'est un genre qui est quand même assez difficile et assez hermétique. Et donc, pour compenser cet hermétisme du rock progressif, il existe un groupe qui a réussi à allier le rock progressif avec quelque chose de populaire, puisque c'est le groupe qui, juste derrière AC/DC avec l'album Back in Black et Thriller de Michael Jackson, a réussi à vendre le plus de disques de l'histoire. Je parle bien évidemment du groupe Pink Floyd, très connu pour pas mal de morceaux, notamment Shine On You Crazy Diamond ou encore l'album The Wall. On pourrait citer par exemple la très célèbre chanson Comfortably Numb. Ce qui va caractériser le son de Pink Floyd, c'est cette capacité à allier à la fois une musique très novatrice comme le rock progressif et des sons qui sont quand même familiers et qui peuvent quand même parler aux gens. Nous aurons un jour la chance de revenir sur l'album qui les a rendus le plus célèbres, The Dark Side of the Moon. Pour l'heure, nous nous intéresserons à un morceau en particulier qui a une place vraiment centrale et pivot, on pourrait dire, dans la carrière des Pink Floyd. Les Pink Floyd ont commencé comme un groupe qui est d'abord un groupe de rock psychédélique. En effet, à sa formation originelle, avec Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason et Richard Wright au clavier. Nick Mason à la batterie et Roger Waters à la basse, avec Syd Barrett au chant et à la guitare, évidemment. Eh bien, c'est un groupe de rock psychédélique, tout d'abord. C'est un groupe qui est vraiment orienté vers cet aspect de rock psychédélique, de musique qui va vraiment détonner par rapport à l'habitude. Et cette musique-là va progressivement évoluer avec le changement de la formation du groupe, puisque Syd Barrett, à cause de problèmes mentaux, va devoir quitter le groupe et être remplacé par un de ses amis d'enfance, David Gilmour, à la guitare et au chant. C'est avec cette formation-là que le groupe est le plus connu d'ailleurs, puisque c'est sous cette formation-là que le groupe a publié plusieurs albums comme Uma Guma, Atom Heart Mother, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, dans lequel on retrouve Shine On You Crazy Diamond. Le truc, c'est que dans la musique des Pink Floyd, on a cette transition entre la période progressive avec The Dark Side of the Moon, etc. et la période beaucoup plus psychédélique qui est la première période du groupe. Et cette transition, elle va s'opérer grâce à un album qui va être vraiment pivot dans la formation du groupe, Medal. Medal est un album qui est très bizarre. Dans sa première, la face A de Medal contient des morceaux comme Simus, dans lesquels on a un chien qui va chanter. Oui, un chien sur scène qui chante avec le groupe. Et, enfin, qui aboie plutôt. Et ce morceau, c'est à la face B de l'album qu'on retrouve vraiment le morceau qui est le plus célèbre de Medal, Echoes. Alors, qu'est-ce que c'est Echoes? Echoes, c'est un morceau qui est très long, déjà pour commencer. Et donc cet épisode va être particulièrement long, vous vous en doutez. C'est un morceau aussi qui va aller très loin dans l'expérimentation sonore, mais qui va quand même avoir des thèmes assez reconnaissables, et qui, quelque part, est le vénérable ancêtre de tous les morceaux de Pink Floyd que vous connaissez et que vous aimez, pour leur richesse et leur complexité. Et à la fois leur attrait tout à fait populaire. Contrairement à Shine On Look Crazy Diamond, par exemple, qui va être un morceau beaucoup plus poli, beaucoup plus abouti, Echoes a ce côté un peu brut. C'est le plus fou de tous les morceaux de rock psychédélique du groupe, et à la fois le plus ordonné des... le plus fou des morceaux de rock progressif, pardon, et le plus ordonné des morceaux de rock psychédélique. Ce qui va lui donner vraiment cette place pivot un peu étrange et centrale. Et c'est donc pour ça que ce morceau va nous intéresser aujourd'hui. C'est un morceau qui est découpé en trois grandes parties narratives. La première partie va nous amener jusqu'à un point culminant. Et ce point culminant va s'effondrer au milieu du néant. On va rentrer ensuite dans la deuxième partie, qui est une partie beaucoup plus expérimentale. Très étrange, vraiment très très étrange cette deuxième partie. Et sur laquelle on va beaucoup plus jouer sur le son que sur la mélodie. Et enfin, on a le retour de la première... un petit segue qui va nous... Une petite séquence qui va nous ramener jusqu'au thème principal. Et cette séquence-là qui va nous ramener jusqu'au thème principal. Et finalement... laisser le morceau mourir à la fin du mourir doucement dans le sens en allant dans le vent. Cette structure là qui s'étend sur 23 minutes, ce qui est en fait la durée maximale que peut durer une phase de vinyle, eh bien c'est une structure vraiment qui va vous emmener en voyage, et je vous propose de me suivre dans ce voyage. Je vais essayer de vous faire découvrir du mieux que je peux et de vous donner des outils sur comment fonctionne ce morceau et comment fonctionne la musique de Echoes et des Pink Floyd. Allons-y. Le morceau commence donc par un piano. Et oui, ce son extrêmement étrange, c'est un piano. Un piano qui est branché dans une réverb et une chambre à écho. Qui joue une simple note. Très haut dans l'aigu. En la répétant. Peu à peu, du néant, on voit émerger des motifs mélodiques ascendants qui montent doucement, comme s'ils étaient étouffés au fin fond de la mer. Métaphore assez importante. Peu à peu, on va vers les graves et on commence à construire des accords. Cette partie-là était improvisée par Richard Wright, le claviériste du groupe évidemment, au cours d'une répétition. Et il n'y a pas une seule version dans laquelle Richard Wright joue exactement la même chose. Ici nous avons alors la version de l'album. Et enfin, David Gilmour rentre à la guitare. C'est parce que ce que joue le piano peut paraître très complexe, mais en réalité, il ne fait qu'alterner entre deux accords, l'accord... puisqu'on est enfin arrivé dans la tonalité du morceau étant Do dièse mineur. C'est-à-dire qu'on va jouer intégralement le morceau sur cette gamme-là. et donc il va alterner deux accords, l'accord de Do mineur et l'accord de Fa mineur. Et sur cette grille d'accords extrêmement simple, le morceau va se construire, l'introduction va continuer de se construire jusqu'à, vous verrez. Entendez bien ces changements d'accords. Fa mineur, Do mineur, Do dièse mineur. Et là, on arrive sur un motif qui va nous guider, qui va faire un mouvement qu'aiment bien les Pink Floyd, c'est un mouvement chromatique de la basse. La basse, ici, va faire... C'est-à-dire qu'on descend vraiment de note en note, jusqu'à l'accord final. Et on va donc enchaîner... Voilà, donc écoutez bien les deux, à la fois la basse qui descend et cette suite d'accords qui nous appartiennent d'ailleurs pas tous à la tonalité de Do mineur, c'est-à-dire qu'on passe de l'accord de Do mineur à l'accord de Do dièse mineur, pardon, l'accord de Do dièse mineur à l'accord de La dièse mineur, qui lui n'est vraiment pas dans la tonalité de Do dièse mineur, mais et qui du coup va nous paraître nous sauter à la figure. Contrairement aux autres accords de Do mineur, c'est-à-dire que si je joue n'importe quel accord de Do dièse mineur, ils vous paraissent tout à fait naturels, ils vous sautent pas au visage. Mais par contre, cet accord-là, mineur, il vous paraît particulièrement mineur. C'est-à-dire que il est encore plus sombre. Il va vous sauter à la figure comme étant un accord particulièrement détonnant, si vous voulez. Ta ta ta, pam. On glisse comme ça. Et là, on était sur un La majeur. On garde le Do dièse. En même temps qu'on descend les autres notes, on garde le Do dièse à sa place, ce qui nous donne un accord de Sol dièse, sus 4. Et on descend donc cet accord, en fait on garde cette note en haut, et on la redescend, on la retarde, ça s'appelle un retard, on retarde cette note là, de l'accord précédent, pour créer une tension qui se résout sur la note de l'accord, ici Sol dièse majeur, qui est l'accord de dominante, c'est-à-dire l'accord qui veut retourner le plus possible à la tonalité à l'accord de Do mineur. C'est... C'est le mouvement le plus classique qu'on peut retrouver dans tous les morceaux de musique classique. Vous le reconnaissez forcément. Eh bien, c'est exactement ce qui va se jouer ici. Je vous invite à l'écouter. On a cet accord qui nous avec la rentrée de la batterie. Cet accord nous saute au visage. Et on a cette descente chromatique progressive. Le retard. Et sa résolution. Et on retourne avec la basse qui va aussi accompagner sur cette alternance de Do dièse mineur et Fa dièse mineur. Où la basse va vraiment jouer. Quelque chose de très simple pour avec la batterie qui va être assez simple pour contraster avec la guitare qui elle fait son solo dans l'aigu et le piano qui lui va. Continuer de jouer ce morceau, ces espèces de longs arpèges en fait, ce qu'on appelle un arpège. Ces longs arpèges qui vont monter de l'aigu vers le. Qui vont monter du grave vers l'aigu, doucement. Et donc, ces longs arpèges qui viennent du grave et qui, du coup, vont vraiment donner cette impression que quelque chose monte, quelque chose cherche à monter de plus en plus. Et au fur et à mesure de cette progression, on a enfin... D'ailleurs, écoutez bien. Avant même d'entendre cet accord-là, on a cette montée en tension à la batterie qui va nous donner l'idée que quelque chose va arriver. On crée donc de l'anticipation avant d'avoir une résolution. Et à nouveau, ces mêmes accords. Qui mènent cette fois-ci au chant. Ce passage-là, avec le chant, avec David Gilmour et Richard Wright au chant, vont paraître très très beau, et c'est le cas. Et il y a une certaine richesse dans le son, puisqu'on va avoir plusieurs couches qui superposent. On a à la fois la guitare qui plaque doucement les accords, la basse qui va jouer sa ligne mélodique, et la batterie qui va donner une pulse très lente, très calme et très apaisée. Globalement, toute l'énergie qu'on a accumulée avec ce... On la redescend d'un coup pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus calme. C'est un effet de contraste qui est assez utile. Et c'est comme ça qu'on avance doucement, doucement, dans ce passage chanté avec les voix des deux chanteurs qui vont s'harmoniser. D'ailleurs, ils ne chantent pas exactement la même chose. Richard Wright va chanter plus aigu, ce qui va donner un côté mélodique, un côté harmonique déjà rien qu'au chant. Et la progression d'accords d'ailleurs qui sous-tend ce chant, puisque c'est assez intéressant, eh bien c'est une progression d'accords, tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Il s'agit juste de l'enchaînement de Do dièse mineur, Sol dièse mineur, Fa dièse mineur, et Sol dièse majeur. Alors, un peu d'harmonie tonale. On est dans la gamme de Do dièse mineur, donc Do dièse, Ré dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse. Eh bien, la quatrième note de la gamme, c'est le Fa dièse, on appelle ça le quatrième degré. La cinquième note de la gamme, on appelle ça le cinquième degré. L'harmonie classique, alors vous remarquerez que sur ces trois accords, sur le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré, on n'a que des accords mineurs. L'intérêt, dans l'harmonie classique, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser dans une gamme mineure, dans les gammes mineures et majeures, le premier, le quatrième et le cinquième degré. Et on va alterner, c'est-à-dire que le premier degré, c'est la maison, c'est là où on est posé, où tout va bien, tout est tranquille. Le quatrième degré n'est pas tendu, mais il n'est plus vraiment, on n'est plus au repos, mais on n'est pas non plus hyper tendu. Et le cinquième degré, lui, il est beaucoup plus tendu et il ne cherche qu'une chose, c'est revenir au premier degré. Et pour renforcer ça, on va transformer le premier degré, le cinquième degré, en cinquième degré majeur. Parce que vous voyez, cette note-là, ce mouvement-là, il est assez naturel, c'est-à-dire que on a envie de monter. Mais on renforce, si on monte cette note-là un tout petit peu pour qu'elle soit juste en dessous du Do dièse, si on met le Si B, ce Si dièse-là qui est juste en dessous du Do dièse, on n'a qu'une envie, c'est de remonter sur ce Do dièse. Et c'est ça qui crée une dynamique de tension-résolution dans la musique tonale. Et ici, cette progression d'accords, elle joue vraiment juste sur ça. On fait Do dièse, Sol dièse, Fa dièse et Sol dièse majeur. Mais cette progression d'accords, comme ça, elle vous semble familière, mais elle n'est pas... elle vous fera pas particulièrement, c'est parce que tout simplement, au lieu de, si on prend cette progression d'accords là, mais où on va pas mettre les notes fondamentales, c'est-à-dire le Do dièse, le Fa dièse et le Sol à la basse, si on met d'autres notes à la base, on va obtenir encore une fois des mouvements très classiques qu'on retrouve en harmonie classique, ce qu'on appelle les mouvements de basse conjointe descendante. Conjointe, ça veut dire que au lieu d'avoir des sauts dans la basse, on va avoir une basse qui est continue, où toutes les notes se suivent logiquement. Eh bien, si vous prenez exactement la même progression d'accords, mais que vous collez une basse continue dessous, une basse conjointe, vous êtes sur ce qu'on appelle une progression de Chacon, qui est la progression baroque typique, qu'on va retrouver dans pas mal de morceaux de Bach, de tout. Donc cette progression extrêmement classique, Pink Floyd ici la réutilise pour créer une atmosphère très sereine et un peu familière aussi. Et en même temps que dans les paroles, si vous écoutez bien, on parle en réalité de la vie, de l'apparition de la vie qui cherche, qui est sous dans les profondeurs de l'océan. Dans les profondeurs de l'océan se cachent les échos d'un temps lointain. On a une forme de nostalgie, on se souvient du passé, d'où l'utilisation d'une progression d'accords qui vient d'ailleurs de l'époque baroque. Et maintenant, on va faire une subversion de cette même progression d'accords. C'est-à-dire qu'on va prendre cette progression d'accords et on va la mettre en majeur. On n'est plus en Do dièse mineur, mais en Do dièse majeur. Au lieu de faire... on va faire en majeur et du coup on va s'attendre à avoir et ceux qui connaissent le morceau savent que ce n'est pas ce qu'on va avoir. Écoutons. On est en majeur. Et ici, au lieu de faire le quatrième degré majeur, puisqu'on est dans une gamme majeure, on revient sur le quatrième degré mineur, ce qui va nous surprendre, premièrement, et d'un coup rajouter quelque chose, passer la musique dans quelque chose de très sombre, ça nous prend directement au trip, c'est-à-dire qu'on est là. Ça nous surprend, ça nous prend vraiment, et ça crée une dramaturgie. Et... ce qui va nous mener vers la section suivante qui est particulièrement dramatique avec le motif très connu qui vient de Icos et qui lui aussi, vous verrez, est une alliance d'élégance et de simplicité. No Et en fait, au lieu de faire... On va rester sur ce... Et en fait, on va juste prendre cet accord de sol dièse majeur, et on va juste monter sur le la majeur qui est juste au-dessus. C'est vraiment, on monte toutes les notes d'un demi-ton. Et là, ce qui va retarder en quelque part l'arrivée sur le premier degré mineur avec le do dièse mineur. Et c'est là qu'on entre dans le motif extrêmement connu des Echoes que je vous laisse écouter avant qu'on la dépasse. Ce motif-là, qui va être répété plusieurs fois, paraît complexe, mais en réalité, il est juste basé sur deux accords extrêmement simples. On va avoir l'accord de Do dièse mineur et l'accord de La dièse de La majeur, qui appartient aussi à la gamme de dièse mineur, et qui est le sixième degré. Une progression très classique. Dans la musique classique, on va avoir tendance à faire premier degré, quatrième degré, cinquième degré, premier degré. Mais dans la musique plutôt populaire, rock, on va avoir tendance à faire premier degré, sixième degré, septième degré, premier degré. C'est ce qu'on appelle en fait le son classique de la musique, le son mineur classique avec... Et le son, en anglais on parle de soft minor sound, du son du mineur doux, où on ne va pas avoir cette note-là qui veut forcément remonter, on va être sur quelque chose de beaucoup plus fluide. Il y a moins de mouvement, si vous voulez, dans cette progression d'accord-là. Et bien, là on va aller sur ce, on va vraiment être dans cette logique-là, on va aller sur ce La majeur. Mais ce serait trop simple d'y aller comme ça. Alors pour y aller, on va avoir un mouvement de basse descendante chromatique. Et oui. Si on le... Et là, on va écouter la suite du motif, puisqu'on va vraiment avoir cette alternance entre deux accords qui va être très caractéristique. Pink Floyd aime bien faire des progressions d'accords qui sont simples. Je veux dire, si on prend par exemple le morceau Breathe, on a vraiment deux accords qui s'enchaînent pendant que la quasi-totalité du morceau, et ces deux accords, c'est... Channel Nuclear Diamond aussi, on alterne pendant toute l'introduction entre... Deux accords, c'est ce qu'on appelle des VEM chords. Une alternance entre deux accords. Eh bien, dans Echoes, on a ce passage-là, qui utilise des VEM chords, très caractéristiques, et puis après s'en éloigne pour résoudre et ramener au couplet avec le chant. Je vous laisse écouter donc ce motif en entier. La guitare improvise une ligne qui remonte après aussi. Et là, à la fin de ce morceau, de cette séquence, on... va changer des accords, on va aller sur le mi majeur, qui est le relatif majeur de do dièse. Alors, qu'est-ce que c'est le relatif majeur? Si on a une gamme majeure, une gamme mineure, pardon, il existe une gamme majeure qui a exactement la même note dedans, mais dans un ordre différent. Et cette gamme, pour do dièse mineur, ça va être la gamme de mi majeur. Si vous aviez le piano en face de vous, vous verrez que c'est vraiment exactement les mêmes notes. Eh bien, on va vers cet accord-là de mi majeur, ce qui est d'un coup, on reste quand même sur dans les notes qu'on connaît, les notes de la gamme qui sont utilisées depuis le début du morceau, mais d'un coup, on rajoute de la lumière, avant de replonger, bien évidemment, dans les ténèbres de do dièse mineur. Et on va donc avoir ce... Et là, on va sur ce si dièse majeur qui est à la fois le cinquième degré de mi majeur et le septième degré de do dièse mineur avec le fameux. Et au lieu de directement nous ramener sur un do dièse mineur, ce qui serait tout à fait possible, Pink Floyd décide de créer une tension en faisant glisser cet accord toutes les notes d'un demi-ton vers le haut. Encore un mouvement chromatique, et oui. Et du coup, on a cette note-là qui veut remonter directement, mais on a aussi qui veut remonter sur ça. Remonter vers le... Vraiment, on a cette tension. Qui ne fait que... remonter vers le do dièse mineur. Et donc nous ramène avec plus de force sur notre accord principal. Je vous laisse écouter le second couplet. Qui va faire la même chose, mais avec les instruments qui vont quand même... plus se développer en arrière-plan, plus jouer, mais on reste encore sur cette structure fondamentale dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez que si la masse sonore augmentait, la structure est exactement la même. Et je vous invite à revenir un petit peu en arrière sur ce couplet justement et à écouter les paroles. Et là, on quitte le fait de parler des origines de la vie pour parler des relations humaines. Le fait d'évoquer les relations sociales dans les paroles des chansons, c'est quelque chose qui vient de Roger Waters, qui est le lyriciste du groupe. Et on va le dire, ce genre de parole est vraiment caractéristique de Pink Floyd. Les relations sociales, c'est un thème récurrent qu'on retrouvera dans l'intégralité de The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals et The Wall. The Wall qui est vraiment... parle quasiment exclusivement de ça, en fait. Et dans cette perspective de parler vraiment des relations sociales de manière intense, les Pink Floyd vont beaucoup utiliser des paroles assez symbolistes, mais quand même assez simples. Et ici, vraiment, Roger Waters parle de manière très évidente des relations humaines. Et de l'imperfection aussi humaine. Du fait que on est quand même assez limité. on a encore ce même motif que on avait évoqué précédemment, ce pont qui nous ramène. Et là, on entre dans une partie complètement instrumentale. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on est encore sur cette structure du couplet, du refrain et du pont. On va avoir exactement les mêmes accords en fond pendant que David Gilmour improvise par-dessus. Et que les différents instrumentistes vont commencer à bouger le son de plus en plus. La batterie est quand même beaucoup plus active qu'au début du morceau, on va pas se mentir. C'est quelque chose qui est assez caractéristique. Nous aurons l'occasion de revenir sur le jeu de Gilmour dans une prochaine émission. Et là, vous entendez en fond le synthétiseur, enfin, les claviers, qui jouent en dialogue avec David Gilmour. On retrouve encore ces fameux motifs très caractéristiques du morceau. Par contre, là, on reste sur le pont et on le fait monter en tension, en son, en puissance. C'est à ce moment-là qu'il est intéressant de parler des instruments qui sont utilisés dans la musique des Pink Floyd. Contrairement à la musique des années 80, 90, etc., où on va utiliser énormément de synthés analogiques, du style le Juno 60, etc., ou de synthés numériques, comme le DX7 de Yamaha, que vous connaissez sans doute pour l'introduction de Sweet Dreams de Eurythmics, eh bien, dans les années 60-70, qui est l'époque à laquelle Pink Floyd a été vachement actif, on n'avait pas tous ces instruments-là. Et du coup, les claviers qui sont utilisés sur Echoes et en fait l'intégralité de la discographie des Pink Floyd, ce sont déjà des pianos, mais aussi des orgues. Alors, pas des orgues dans le sens comme les orgues d'église que vous connaissez, mais plus des orgues électroniques. Ce qu'on appelle des orgues analogiques, comme l'orgue Hammond, qui est très connu pour être utilisé dans le jazz, et l'orgue Farisa. Un orgue Farisa, c'est un orgue de fabrication italienne qui a un son légèrement différent. L'orgue Hammond a vraiment un son très caractéristique, qu'on retrouve dans le jazz et dans la musique gospel, et qui est caractéristiquement américain. Mais l'orgue Farisa a un son beaucoup plus doux et européen, on va dire, qui est plus caractéristique, vraiment, qui est vraiment de fabrication italienne, et caractéristique d'un type d'instrument particulier. Farisa, c'est une entreprise, et Hammond aussi. Ils faisaient des orgues, tous les deux des orgues électriques, mais de manière assez différente. Eh bien, sur ce morceau, qui est Echoes, Richard Wright va jouer particulièrement d'un orgue Farisa. Et c'est cet orgue Farisa qui vous entendez depuis le début et qu'il module pour utiliser tout avec des pédales d'effet, c'est-à-dire phaser, flanger, toutes ces... la fuzz, une distorsion, tout ça, tous ces effets qu'on utilise habituellement sur les guitares, en fait, on les utilisait aussi énormément à l'époque sur les claviers. Et c'est comme ça qu'on obtient toute la variété des sons de Pink Floyd. C'est vraiment une approche très différente de l'approche synthétiseur, sur laquelle on reviendra quand on parlera d'autres artistes qui ont beaucoup plus utilisé les synthétiseurs. Cette manière très particulière d'utiliser le son, qu'on retrouve chez Pink Floyd, eh bien, on la retrouve vraiment dans ce morceau, puisqu'on va avoir une partie très expérimentale où il faut s'imaginer que c'est vraiment de la bidouille et avec très peu de choses qu'ils arrivent à faire tous les sons qu'ils obtiennent. On est encore assez limité à l'époque. Si on poursuit le morceau, on va arriver sur cette partie. On arrive bientôt. On arrive dans une partie qui va être beaucoup plus statique juste après ça. Et vous le sentez, l'énergie, la masse sonore se décondense d'un coup. Et on a ces claviers qui vont jouer des choses très rythmiques. C'est un orgue Farisa distordu. Et on reste là, sur l'accord de Do dièse mineur, en boucle pendant toute cette partie-là, avec quelques occasions où on va aller sur le Fa dièse mineur. Ici, David Gilmour utilise une pédale pour moduler son son. C'est-à-dire qu'il branche sa guitare dans une pédale qui est une Big Muff. C'est la pédale caractéristique de David Gilmour, c'est une pédale qui va distordre le son, si vous voulez, qui va le rendre plus crasseux. Ce qui va donner ce son caractéristique dans ce solo. Comme je vous l'ai dit, c'est un passage très très statique, très... On a cette énergie un peu dansante, mais on reste sur quelque chose de très standard. Et là, on commence à expérimenter. David Gilmour commence à utiliser des effets. Du jeu non conventionnel, notamment en utilisant la barre de vibrato de sa guitare. Ça annonce la partie suivante. Encore une fois, on est sur une construction narrative rondement menée par, par le groupe. Et la musique semble, avec les solos de David Gilmour, semble d'un coup beaucoup plus chaotique. On n'est pas sur quelque chose de très... polissés, mais sur des sons distordus, des lignes mélodiques qui vont de droite à gauche, errent un petit peu sans se vraiment trouver leur point d'accroche. Et ça, ça annonce la partie qui arrive juste après, la partie B, on va dire, du morceau, qui est une partie très très expérimentale. Tendez bien l'oreille, vous entendrez des sortes d'espèces de cris dans l'aigu qui sont obtenus grâce à une guitare électrique, en plus de la piste classique sonore. Et puis on a ce son extrêmement grave qui ondule, qui monte et qui redescend, qui va peu à peu prendre le dessus avec les cris. Tandis que le passage assez statique se fond, on a cette montée de cette masse sonore un peu informe qui ondule de haut en bas. Là, on a un son qui est assez particulier, qu'on va appeler le cri de la mouette, qui est obtenu non pas avec un synthétiseur, non pas avec un clavier, mais avec une guitare électrique, la guitare électrique de David Gilmour, en branchant à l'envers une pédale wah-wah, ce qui est une pédale assez qui permet de donner un effet du son qui ondule, comme si on avait un vibrato sur la guitare. Et bien, en branchant à l'envers sa pédale wah-wah, David Gilmour peut donner cet effet de cri assez aigu et strident, et en modulant le son, le tone, et à la fois à quel point il presse sur la pédale, wah-wah, on obtient ces sons-là, ces espèces de cris de mouette, qui ont aussi par-dessus évidemment un écho. cet orgue qui est au fond aussi et qui joue très doucement en dessous du cri de la mouette. D'ailleurs, c'est son qui rappelle le vent. On est vraiment sur quelque chose de très expérimental, c'est-à-dire que au lieu de s'intéresser à la mélodie, à l'harmonie, etc., là, le groupe vraiment recherche le son pur, le son lui-même, qui devient la matière sonore, la matière musicale. D'ailleurs des vrais cris de mouette dans l'enregistrement. D'orgue qui est très distordu et très lointain, comme s'il était, il nous parvenait difficilement. Ça, c'est aussi obtenu avec l'enchaînement de plusieurs effets sur l'orgue Farissa. Puis là, on a un accord qui émerge du néant. Qui prend le dessus sur ce chaos sonore qu'on vient d'entendre. Et qui, de plus en plus, se clarifie, s'installe. On a vraiment ce fondu progressif, très doux. Si on devait caractériser Echoes, ça c'est vraiment... Toutes les transitions se font de manière très, très douce, comme si la partie précédente se fondait doucement dans la partie suivante. Et là, on a le retour du début, de ces notes très de ce si aigu qui vraiment ouvre le morceau et qui est là le. Donc, on s'attend à retrouver ce qu'on a trouvé au morceau, c'est-à-dire le même chant, etc., qu'au début, avec après une longue introduction. Et c'est exactement ce qu'on va avoir, sauf que l'introduction va prendre une forme très différente. D'ailleurs, on a l'utilisation ici d'un flanger ou d'un phaser sur le qui donne cette espèce de mouvement interne au son. Voilà, on change d'accord. On a quatre accords qui se répètent en boucle avec un à un tous les instruments qui vont rentrer doucement les uns après les autres. et on fait donc monter progressivement la tension. Oui, on va enchaîner les accords qui sont enchaînés. Parlons-en. On a l'accord de si mineur. L'accord de fa dièse mineur. Le nouveau accord de si mineur, mais avec un ré à la basse. Puis l'accord de mi sus cadre. Qui va être répété plusieurs fois. On va répéter ça 8 fois. Puis ensuite, les accords qu'on va enchaîner. Ça c'est une progression très... progression extrêmement classique en si mineur, c'est-à-dire qu'on est sur la tonalité de si mineur, qui est pas du tout la tonalité de do dièse mineur du coup. Et juste après, on va brutalement monter sur la tonalité de do dièse mineur, en répétant plusieurs fois. Et au lieu d'aller sur notre fa dièse tout de suite, on va passer par cet accord qui est un peu étrange, qui va nous choquer les oreilles. Et on va revenir en si majeur. On va revenir en si mineur cette fois-ci. Pour une dernière fois, avant de retourner sur notre tonalité de do dièse mineur. Et là, cet accord-là, là, c'est un accord dorien. C'est-à-dire que c'est un accord issu du mode dorien. C'est pas la gamme mineure, mais le mode, la gamme mineure dorienne. Et ce fa dièse ici, fa dièse majeur, il va en fait rajouter de la lumière à l'intérieur du morceau. Cette section, donc, je vous ai joué donc toutes les progressions d'accords de la section qui arrive. Je vous invite donc à l'écouter avec ce rythme entêtant qui se poursuit, qui se répète et qui se répète. Voilà, on a vraiment cette masse sonore qui croît par-dessus ces accords qui se répètent. Qui donne quelque chose d'entêtant. On attend la suite, on attend cette montée en énergie, on la sent, elle est très très progressive, mais on l'attend. Et là, on a enfin l'entrée de la guitare. Dans l'aigu qui joue des accords, enfin qui joue des arpèges un peu brisés. Enfin sur ce rythme en dedans, le croche répété. Sol dièse mineur. Mi majeur. On termine par deux accords majeurs, ce qui est assez lumineux. Fa dièse majeur. Vous voyez, on accumule d'un coup beaucoup d'énergie, et si dans tout le morceau on a fait quelque chose de très doux en termes de transition, d'un coup on brise et on revient sur les paroles, sur le chant, de manière directe où on redescend d'un coup l'énergie. Je fais d'un coup chuter ce momentum, cet élan qui s'accumulait au cours de la section précédente. Je vous invite aussi particulièrement à écouter que le fait que les voix sont cette fois-ci elles aussi distordues à travers des effets comme de la réverb et un léger phaser, ce qui fait qu'on entend cette voix qui n'est plus vraiment humaine, elle est un peu éthérée. Ça donne un effet éthéré à la voix, à ce dernier couplet, qui lui va porter beaucoup, contrairement aux deux précédents couplets qui parlaient du fait que on est imparfait, que l'humanité des origines de la vie qui vient des profondeurs de l'océan, qui essaie tant bien que mal de monter vers la lumière, etc. Là, on va avoir un message qui est beaucoup plus lumineux et qui va où clairement on va même en appeler à l'autre. Et on revient sur cette structure qu'on avait du couplet refrain, c'est-à-dire que c'est les mêmes accords, c'est les mêmes mélodies, le même rythme, mais par contre les instruments autour, l'arrangement, si vous voulez, va donner encore un autre caractère. Et d'un coup, si vous écoutez bien, oui, on a le retour de ce piano dans une chambre d'écho. Le début, tous les éléments du morceau convergent en un seul point vers le climax du morceau. Qui arrive enfin sur ce riff là, le motif caractéristique du morceau. Avec cette descente chromatique. Et on a cet orgue par ça en fond qui va vraiment laisser durer les accords. Ça remplit l'espace sonore si vous voulez. Ça rajoute. Ça donne un effet très spacieux au son. Enfin. Et on s'entête vraiment sur ce motif là, on le répète ad nauseam quelque part. Et on laisse grandir, prendre tout l'espace, enfin, dans les dernières minutes du morceau. C'est impossible en fait, tellement il y a de pistes de guitare, de basse et de clavier qui jouent en même temps, vraiment réussir à tout déclarer, ça crée ce mur sonore. Et là on ralentit, on se calme. Et on revient sur la progression d'accords du couplet. L'énergie redescendre doucement, ce qui annonce la fin du morceau. Vous vous rappelez de tout à l'heure ce son qui monte progressivement vers l'aigu et qui s'estompe. C'était en réalité une annonce de la fin du morceau que voici. Avec ce son qui monte vers l'aigu de manière continue, tandis que derrière le morceau s'estompe et doucement s'évapore. Il ne reste plus à la fin que ce son aigu qui qui monte, cette espèce de souffle de vent. Et ce, cet écho qui se perd dans le vent de ceci. Cette note-là. Et tout ça s'estompe peu à peu dans un grand fondu au silence. C'était Icos. Pour terminer cette émission, je voulais donc qu'on revienne un petit peu sur cette expérience sonore. Icos, qui est à la croisement, vraiment au croisement du rock psychédélique et du rock progressif, est un morceau qui est très long et qui va dans toute sa structure déployer une structure vraiment une progression dramatique vraiment définie. C'est vraiment la caractéristique de ce morceau et ce qui en fait, à mon sens, un des morceaux les plus intéressants des Pink Floyd. On va passer par énormément d'ambiances sonores. On va passer d'une introduction qui est lente, contemplative, très épurée, très espacée, à un couplet-refrain avec un motif de pont qui nous ramène au couplet, qui va vraiment être assez dense, assez lourd, assez dramatique, qui a vraiment une force émotionnelle assez puissante. On va gonfler sur une partie instrumentale sur ces motifs-là, puis en fait on arrive ensuite à une grande improvisation un peu chaotique, très statique, et enfin on arrive dans une partie vraiment expérimentale qui amène à un retour de l'introduction initiale, mais cette fois-ci avec une subversion, puisqu'on va avoir des accords qui vont être répétés, des accords qui ne sont même pas des accords de la tonalité de Do dièse mineur, ce qui va encore augmenter le contraste d'ailleurs, qui vont se répéter, sur lesquels on va construire en accumulant de la masse sonore. On va faire retomber toute l'énergie du morceau pour le dernier couplet dans une grande brisure de la structure narrative, ce qui va vraiment nous prendre par surprise, et c'est parce que c'est un moment exceptionnel que ça nous prend par surprise. Si Pink Floyd passe son temps à tout le temps briser au lieu de faire des transitions progressives, ça ne serait pas aussi intéressant. En somme, ce qui fait la beauté de ce morceau, c'est sa capacité à jouer sur nos attentes, à jouer sur le temps long pour créer des progressions harmoniques, des progressions dramatiques, et sa capacité à vraiment maîtriser tous ces simples petits outils. Tous les éléments que je vous ai présentés au cours de cet épisode sont des éléments en réalité assez simples, qu'avec quelques mois de pratique de la musique, vous seriez capable de composer vous-même. Mais ce qui fait la beauté de ce morceau, ce ne sont pas ces éléments, c'est vraiment le fait de prendre ces éléments et de les associer au bon endroit, au bon moment. En somme, ce que nous montre ce morceau, c'est que pour créer de la bonne musique, il suffit de placer les bons éléments au bon endroit. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Les Humains et leurs machines à son.
For the court of the crimson.